France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. Une émission spéciale ce midi, puisqu'à Rome se tiennent en ce moment même les funérailles du pape François. Rome, centre du monde, un événement majeur que nous allons éclairer avec notre invité François Mabille, chercheur au CNRS. Il dirige l'Observatoire géopolitique des religions de l'IRIS et a publié cette année aux éditions Erol, La papauté face à un monde en crise. Bref, de quoi nourrir notre réflexion. Mais pour commencer, place au duel avec Natacha Polony, journaliste éditorialiste, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès.
Le grand face-à-face, Thomas Négaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
En mode papal ce midi, on ira tout à l'heure à Place Saint-Pierre à Rome y retrouver Bruno Duvic, mais on va commencer en France. Je ne sais pas si vous avez remarqué en venant à la radio ce matin, mais les drapeaux sont en berne, ce qui a ouvert un débat politique très français.
Moi, je suis à l'ancienne, pardon. Je reste attaché à la loi 1905, à la manière dont même, je pense à Clémenceau, pouvait le pratiquer quand il était président du Conseil. Nous n'avons pas à participer en tant qu'élu à une cérémonie religieuse. Et la France, la République laïque, n'a pas à être en berne quand une autorité religieuse s'éteint. Vous savez, la France est un pays dans lequel il y a différents cultes qui existent. Il y a d'ailleurs la moitié des Français qui ne sont pas croyants. Et nous avons à être neutres vis-à-vis du culte. La République ne reconnaît pas des cultes. Ça veut dire précisément qu'elle ne sait pas qu'elle est indifférente. Mais elle n'a pas à s'immiscer, elle n'a pas à participer à des cérémonies religieuses.
Alexis Corbière, député du groupe écologiste et social, une forme d'entorse à la laïcité, presque un scandale. Qu'en pensez-vous, Gilles ?
La mise en berne des drapeaux est régie par un décret qui date de 1989 et qui ne nous apprend pas grand-chose. Elle est obligatoire pour les présidents de la République et pour le reste, elle est facultative. Alors, pour réfléchir à cette question, on a en réalité deux types de ressources. Il y a les ressources de l'histoire. Dans quel cas les drapeaux ont-ils déjà été mis en berne? Et on voit qu'il y a en gros quatre catégories. Il y a les anciens présidents de la République.
Ça, c'est obligatoire.
C'est obligatoire. Il y a les attentats à l'étranger et en France, du 11 septembre jusqu'à Samuel Paty. Les chefs d'État, des chefs d'État étrangers, et avec des chefs d'État aussi différents que Elisabeth II, Nelson Mandela, mais aussi Franco et Staline.
Ah.
Et les papes.
Et qui sont aussi des chefs d'État, pardon.
Et quasiment tous les papes. Pie XII, Jean XXIII, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, il y a une exception pour Benoît XVI.
Mais oui,
parce qu'il
avait démissionné avant.
Et je ne sais pas pourquoi, pour Paul VI. Donc, quand on dit qu'il y a une forme d'usage républicain, l'histoire le montre. Donc ça, c'est une première ressource. Et puis, il y a une deuxième ressource qui est celle des principes. Qui est honoré? Vous l'avez évoqué d'un mot, il y a cette ambiguïté, peut-être même cette forme d'hypocrisie, de savoir est-ce que c'est un chef d'État ou est-ce que c'est comme chef de l'Église. Et pourquoi il est honoré, puisque c'est quand même plus comme chef de l'Église que comme chef d'État. Et c'est là où on entend les propos d'Alexis Corbière, avec deux critiques. La place des cultes dans la République laïque et cette idée de la neutralité de l'État, mais aussi une deuxième critique qui est celle d'une sorte de préférence implicite d'un culte par rapport aux autres, puisque la loi de 1905 dit que l'État, la République ne favorise aucun culte. Donc c'est ça un peu les termes du débat. Et puis peut-être pour terminer, c'est quand même, je crois, une polémique de relative basse intensité qui n'a d'égal que sa grande régularité. Il y a 20 ans, vous reprenez les articles, les critiques, c'était mot pour mot les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Et puis peut-être en raisonnant par l'absurde, je crois qu'il n'y a pas des fondements très solides à la mise en berne des drapeaux, mais il aurait été étrange qu'on le fasse pour les autres papes et pas pour celui-là qui n'était pas le pire, c'est le moins qu'on puisse dire.
Je vous donne la parole, Natacha, mais à Rome, le cercueil du pape François est en train de quitter la place Saint-Pierre pour se rendre à la basilique Sainte-Marie Majeure, à 4 km de là. Natacha.
Oui, Gilles l'a dit. Est-ce que c'est le chef d'État, puisque c'est pour les chefs d'État proches
de la France en général, qu'on met les drapeaux en berne. Il y a là quelque chose, en fait, dans l'usage qui concerne les papes, qui montre que le plus jésuite n'est pas celui qu'on pense. Hein. C'est pas forcément... C'est d'autant plus vrai qu'en effet, si on se reporte aux commentaires d'il y a 20 ans, où on avait par exemple Dominique de Villepin qui défendait la mise en berne au nom de l'usage républicain, rappelons qu'il était ministre de l'Intérieur, pendant que
et
des cultes donc, pendant que François Bayrou, qui était opposant au gouvernement, disait que lui ne l'aurait pas fait. Tout cela est assez délicieux, mais après tout, ça n'a pas grande importance, ce n'est pas très grave. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que ça réveille des choses profondes. Par exemple, Emmanuel Macron, depuis Madagascar, a déclaré ceci. Dans la République française, avec sa liberté, son égalité, sa fraternité, il y a tellement de choses qui ressemblent à l'universalisme chrétien, on aura chacun nos interprétations, mais je sais une chose, c'est qu'à la fin, la racine est la même. Vous comprenez le message. Le président de la République envoie aux catholiques le message, les racines chrétiennes de la France. Et ça n'est pas illégitime.
Et il le fait en Afrique.
Il le fait en Afrique. Ça n'est pas illégitime, puisqu'en effet, il y a des racines chrétiennes, mais on oublie toujours qu'il y a aussi des racines grecques et romaines dans ce que nous sommes aujourd'hui. Mais pourquoi je rappelle ça? Parce qu'il y a déjà quelque chose, il faudrait prendre le temps de l'explorer, ce lien entre l'universalisme chrétien et l'universalisme français, qui sont
républicains,
qui sont deux universalismes à la fois proches et différents, mais dont on n'explicite jamais véritablement les termes. Et j'y insiste, pourquoi? Parce que ce qui m'a frappé dans les réactions à la mort de ce pape, c'est que j'ai rarement vu une telle violence contre un pape. Quand on se promène sur les réseaux sociaux, il y a un déferlement de haine de la part de l'extrême droite, de la part de certains catholique même, contre lui, qui me semble assez étonnante. Ou plutôt, non, pas étonnante du tout. Je peux vous citer Sébastien Chenu, par exemple, disant « Un pape qui a fait culpabiliser l'Occident sur l'accueil des migrants, qui a fermé les yeux sur l'islamisme et qui a méprisé la France. » Donc en fait, tout cela nous raconte l'état du rapport, notamment en France, au catholicisme, les questions à la identitaire ou universaliste. Ce pape, de ce point de vue-là, a joué son rôle, notamment quand un pape rappelle que l'accueil des migrants est quelque chose d'absolument essentiel, il joue son rôle de pape. Je trouverais ça bizarre qu'un pape dise autre chose. Il n'a pas à gérer une nation. Il est pape.
Donc il y aurait, selon vous, dans les critiques à la mise en berne des drapeaux, j'y reviens, quelque chose d'incohérent compte tenu de la haine qu'aurait déversé le pape François à l'encontre de la France.
Non,
pour certains, pas pour vous bien sûr, mais Sébastien Chenu et d'autres.
Voilà, c'est-à-dire c'est très drôle, comme les mêmes à l'extrême droite trouvent tout à fait normal de mettre en berne les drapeaux parce que, en fait, ils ont du mal avec la laïcité à la française. Mais en même temps...
Mais pas avec la racine chrétienne de la France.
Voilà. Mais en même temps, critique de façon hallucinante un pape qui leur a déplu parce qu'il ne ressemblait pas assez à leur catholicisme identitaire.
On reviendra sur cette question dans un instant avec la génération François, celle que l'on qualifie en tout cas ainsi, Gilles.
Oui, j'ai regardé moi aussi, j'étais très intéressé par les réactions à la fois d'une droite traditionnaliste et de l'extrême droite à la mort du pape et à son bilan. Les uns et les autres contestaient durement cette idée du pape des migrants et de son encyclique. S'ajoutait pour l'extrême droite, elle ne le disait évidemment pas comme ça, le problème de « c'est le pape des pauvres ». Vous vous souvenez quand on avait reçu Michel Ferrer ici, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Les producteurs et les parasites », qui analysait l'idéologie de l'extrême droite, qui montrait que cette idéologie s'était construite contre les parasites, avec les parasites du haut et les parasites du bas, qui étaient les pauvres. En fait, l'extrême droite n'a aucun discours sur la pauvreté. Et la droite nationaliste, la droite traditionnaliste, avait en plus un problème avec un pape qui était par trop un pape libéral. Et donc, les uns et les autres ne l'aimaient guère, l'ont critiqué très durement pendant son mandat, pendant son pontificat. Beaucoup, depuis sa mort, malgré tout, ont observé un silence pudique, voire lui ont rendu hommage. Mais j'ai lu attentivement aussi bien le Figaro magazine que Valeurs Actuelles cette semaine, qui ont l'un et l'autre en couverture le pape François. Il y a un article très intéressant de Jean Sevilla dans le Figaro magazine. Disons qu'il est très, très nuancé sur son bilan. Et dans Valeurs actuelles, là, on n'est pas dans la nuance. C'est un article d'une très grande critique de Laurent Dondreau, je crois. Je cite juste un mot. « Un pontificat prodigue en polémique, source de profondes divisions et de nombreuses confusions. » Le ton est donné, mais dans l'ensemble, il y a aussi quelques responsables politiques. Vous avez évoqué Sébastien Chenu, il y a eu Julien Odoul, il y a eu Philippe de Villiers aussi, je ne sais pas si on...
Un pape woke.
Voilà.
Natacha.
On ajoutera des critiques venant d'une autre sphère,
oui.
Les pro-israéliens en France, qui là aussi sont extrêmement virulents contre ce pape qui n'a pas assez soutenu Israël et qui
s'émeut voilà, de la cause palestinienne. Et de Gaza en particulier.
Le grand face-à-face, le duel.
Je crois que ces jeunes générations-là qui ont souffert du confinement, qui se demandent où va ce monde, qui voient les menaces de guerre apparaître, voilà, etc., ils sont conduits à une intériorité plus grande que les générations précédentes.
L'évêque d'Amiens cette semaine qui explique pourquoi, selon lui, les jeunes se tournent à nouveau vers l'Église. L'occasion pour nous de nous interroger sur cette génération François. Natacha, deux questions. Est-ce que cette génération existe ? Et est-ce que toute la jeunesse catholique française s'y retrouve ?
Alors, je crois que d'abord, il faut être prudent sur ces notions-là parce que ça nécessiterait vraiment une étude très approfondie. Je donne un exemple. Cette année, donc, à l'occasion de Pâques, il y a eu à peu près 12 000 baptêmes d'adultes et d'adolescents. C'est 7 000 pour les adultes, 5 000 pour les adolescents. C'est plus 30% par rapport à l'an dernier pour les adultes, plus 50% pour les adolescents. Donc on peut se dire, c'est absolument énorme comme chiffre. Il faut replacer ça dans un contexte qui est que les catholiques pratiquants sont à peu près 2 à 4% en France, mais que ce qui fait quand même très très peu, mais surtout que la pratique du baptême chez les nouveau-nés s'est énormément perdue. De telle sorte que ceux qui sont catholiques pratiquants arrivent à l'âge adulte ou veulent pratiquer à un âge où ils n'ont pas été baptisés. Donc ce renouveau du baptême s'explique aussi par le recul du baptême habituel D'accord. qu'autrefois tous les parents faisaient. C'est pour ça que je dis qu'il faut être très prudent. Ensuite, sur la question des motivations, parce que de fait, il y a quand même des jeunes générations dont on voit qu'elles s'expriment. C'est d'ailleurs très intéressant.
L'évêque évoquait ce vide spirituel, le Covid, ce trouble des adolescents qu'on mesure régulièrement.
Et en fait, on a vu cela beaucoup au moment de l'encyclique du pape François, Laudato Si, sur l'écologie intégrale, oui. où on a vu surgir toute une part de jeunes chrétiens écolos, dont on ne voyait pas bien s'il se situait plus à droite ou plus à gauche sur le prisme politique, mais c'était un mouvement extrêmement intéressant parce que par cette encyclique, en fait, le pape offrait à des jeunes gens un discours de modernité sur la question écologique qui fait partie des angoisses de la jeunesse. Donc il y a une part des jeunes gens qui ont envie de s'identifier à cela. La question à se poser, c'est la dimension identitaire de ce renouveau, de cette affirmation catholique. On voit par exemple s'exprimer beaucoup de jeunes gens sur les réseaux sociaux qui mettent en scène leur carême dans une forme de mimétisme vis-à-vis de l'islam et du ramadan. Donc la dimension identitaire et j'allais dire la dimension un petit peu, ce n'est pas péjoratif, mais de narcissisme très contemporain, joue sans doute beaucoup là-dedans et c'est en ça que c'est peut-être un petit peu différent du catholicisme que prônait le pape François.
De l'altruisme et de l'altérité
de
l'autre.
Voilà,
quoi.
Exactement.
Gilles, sur cette génération François, est-ce que c'est une création médiatique pour le faire rapidement ?
Je suis interrogatif, pour ne pas dire sceptique. D'un côté, il y a disons des signaux faibles, un certain nombre de faits, un certain nombre d'indices. Natacha a évoqué la progression du nombre de baptêmes d'adultes et d'adolescents à Pâques. Il y a, on le voit, l'émotion à la mort du pape. Il y a eu la ferveur lors du voyage du pape en Corse ou à Marseille. L'émotion, je crois, réelle au moment de la réouverture de Notre-Dame.
Où le pape n'avait pas souhaité se rendre.
Absolument. un renouveau de la présence du catholicisme dans les médias. C'est vrai dans le, ça a été vrai dans Paris Match à un moment, c'était vrai dans le, je l'évoquais tout à l'heure, dans le au Figaro Magazine à Valeur Actuelle, dans le Journal du Dimanche ou sur CNews avec une émission catholique. Donc il y a ces disons ces signaux faibles. Et puis d'un autre côté, il y a quand même des tendances lourdes de sécularisation de ce pays, de déprise du religieux en général et du catholicisme en particulier par rapport à avant et par rapport à ailleurs, qui est une vraie singularité française. J'en donne juste deux illustrations. D'un point de vue, disons, macro, d'un point de vue global, quand on regarde la religion déclarée des Français, vous avez aujourd'hui un peu moins de 30% de catholiques, il y en avait 90% dans les années 60, et la première religion, si je puis dire, c'est la moitié, la grosse moitié de Français qui se déclarent sans religion. Et même quand on regarde par âge la répartition des catholiques pratiquants, il y en a 5 fois moins chez les 18-50 ans que chez les plus de 75 ans. Donc, prudence d'un point de vue macro et d'un point de vue plus individuel, dans quelle mesure la religion, ou même plus largement le rapport à la religion, c'est-à-dire y compris l'athéisme, est-ce que ça constitue une dimension centrale de notre identité individuelle? Il se trouve que en novembre dernier, dans la dernière vague des fractures françaises, on avait posé cette question, on avait proposé 11 caractéristiques différentes. Le genre, vos opinions politiques, votre nationalité, votre origine géographique, vos passions, vos amis, votre génération, votre milieu social, votre métier et vos convictions religieuses. Et chacun pouvait citer 3 éléments qui étaient les plus constitutifs de leur identité. Qu'est-ce qui arrive en dernier, 11e sur 11, les convictions religieuses, 9% seulement, alors qu'on peut se donner 3 réponses, même chez les catholiques, on est à 12%, et même chez les catholiques pratiquants, on est à 20%. Donc, je trouve grande prudence par rapport à cette idée de il y a une vague qu'on ne voit pas venir.
Passionnant, hein, cette remise en perspective. Chiffrée, enquêtée, sourcée, pas que du doigt mouillé ou de l'impression en regardant des images. Natacha.
Oui, on peut ajouter une chose qui est que ça aboutit à une forme de redéfinition du catholicisme en France comme une forme de minorité. Et c'est cela qui est surtout très frappant quand on voit la façon dont les catholiques qui veulent s'afficher en tant que tels, c'est-à-dire ceux qui ne sont justement pas tout à fait sécularisés ou ceux qui souhaitent un renouveau du catholicisme, c'est qu'ils sont en train de se positionner comme une minorité comme les autres, ce qui, pour le catholicisme dans un pays comme la France, est un paradoxe et aboutit, je pense, à une vision, comment dire, plus compliquée des choses. J'en reviens à ma réflexion sur l'universalisme chrétien face à l'universalisme républicain.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Allez plus loin.
Je veux dire par là que ce minoritarisme n'est justement pas la meilleure manière, à mon avis, de coller avec ce que le reste du monde attend du catholicisme et qu'on voit dans la pratique d'un pape comme le pape François. C'est au contraire, je pense, une façon de se recroqueviller. Alors, de se recroqueviller, il y a des endroits où c'est porteur. Par exemple, J.D. Vance est un excellent exemple d'un catholicisme identitaire qui se veut affirmatif. Mais je ne crois pas que ce soit la meilleure manière de peser dans une société laïque comme la société française.
Gilles, un petit mot là-dessus encore.
Oui, un petit mot du point de vue français. Hein, parce qu'encore une fois, c'est très différent ailleurs. Bon. Cette idée d'un renouveau et d'une vague extraordinaire, je pense que c'est largement un artefact, c'est « donnez-moi un os, j'en ferai un diplodocus ». Et il faudra regarder quel sera l'intérêt réel des Français pour la couverture, la très grande couverture qu'il y a eu pendant toute cette semaine sur la mort du pape, et s'interroger sur quelle est l'influence réelle des positions de l'Église dans la société, y compris auprès des catholiques. On voit que sur les questions de société, les femmes, l'avortement, il y a un décalage dans un sens. On voit que sur les questions d'immigration, il y a un décalage dans l'autre sens. Et au final, je crois que c'est une influence concrète qui est assez limitée.
Et difficile tout de même à mesurer, mais c'est en tout cas une question importante à poser, notamment aujourd'hui.
Le grand face-à-face, le duel.
Allez, pour terminer le duel, on va se pencher sur le bilan du pape François.
Et quand plus tard à Rome, on évoquait avec lui le voyage à Marseille, alors on parlait du pharo, alors on parlait etc. Et toujours il ajoutait, oui, mais aussi les sœurs de Mère Teresa à Saint-Mauron. Tant était grande pour lui l'affection qu'il portait aux personnes les plus pauvres. Nous ne devrons jamais l'oublier.
Le cardinal Aveline, le soir de la mort du pape lundi dernier, le pape des pauvres. C'est ainsi qu'on a beaucoup présenté le pontificat de François. Natacha, quel bilan faire de ces 12 ans de Vatican? Est-ce qu'on n'a pas exagéré aussi, un peu comme avec la notion de génération pape François, exagéré cette dimension de pape des pauvres ou de pape ultra-progressiste?
Alors, d'abord, quand on parle d'un pape, la question du progressisme est toujours à nuancer.
Oui. Et
il y a un dogme, oui. Et puis il y a des croyances. C'est-à-dire qu'un pape considère que la vie dès son apparition doit être respectée. Là aussi, ça fait partie de son boulot de pape. Après, il y a d'autres manières de le faire. Non, moi, ce qui me frappe, c'est que je n'ai absolument pas entendu ces derniers jours quelque chose qui est fondamental, me semble-t-il, pour comprendre le pape François. C'est la question de la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire que, à partir de 1891, l'Église catholique essaye de, c'est l'encyclique Rerum Novarum, l'Église catholique essaye de penser sa doctrine en fonction, face au bouleversement du monde, c'est-à-dire la révolution industrielle, l'apparition du marxisme, et puis tout au long du XXe siècle, face aussi au totalitarisme.
La modernité, en fait.
Voilà. Et ça va donner une réflexion sur le refus de l'exploitation de l'homme par l'homme, l'idée qu'il faut défendre en tout point la dignité humaine, et que même si on accepte la propriété privée, il y a ce que l'Église appelle la destination commune des biens. C'est tout cela que le pape François portait en lui par sa formation jésuite. On peut y ajouter d'ailleurs l'influence, par exemple, d'un théologien comme Jacques Maritain, justement sur l'humanisme intégral. Mmh. Donc c'est tout ça qui permet de comprendre comment il se positionne et comment, en effet, il est véritablement extrêmement en pointe sur l'idée de faire retrouver à l'Église sa vocation d'accueil des plus pauvres et des plus faibles. Et c'est lié, du coup, à sa vision doctrinale, parce que sa grande œuvre a été de remettre en cause le pouvoir de la curie, l'aspect pyramidal de l'Église. Il s'est battu de façon extrêmement violente, justement, pour un caractère beaucoup plus synodal et décentralisé de l'Église. Ça, on ne sait pas ce qui va en rester, même s'il a placé un peu partout, des pions pour essayer de maintenir cet héritage. Mais c'est une évolution qui ne se voit pas de l'extérieur, mais qui est en fait extrêmement importante. Je pense que c'est là le bilan, mais c'est toujours à mettre en lien avec son côté jésuite, et puis on va sans doute parler avec notre invité de la dimension géopolitique, avec son côté sud-américain.
Oui, sud-américain, bien sûr. Argentin, pape argentin. Gilles, sur la notion, sur le bilan, sur ce que l'histoire peut-être retiendra de ce pontificat, même si c'est très difficile de le faire le jour de ses funérailles.
Absolument. Il y a deux choses qui m'ont frappé. La première, c'est cette interrogation, d'une certaine manière, que vous avez posée aussi, Thomas, c'est est-ce qu'on peut caractériser le bilan du pape, et notamment le caractériser à l'aune du clivage gauche-droite, parce que c'est beaucoup ce qui a été fait dans le débat, oui, cette semaine. Alors, je ne suis pas sûr qu'un pape, par fonction, puisse être de gauche ni même de droite, même si ses propos peuvent être analysés
d'autant que c'est la Trinité, hein, plutôt,
à l'aune du clivage gauche-droite. Mais il y a eu ce débat-là et cette même tentative de récupération. Et moi, ce que je trouve très paradoxal et très savoureux d'une certaine manière, c'est qu'au moment précis où, je dis même depuis des décennies, on dit le clivage gauche-droite est dépassé, obsolète, périmé, il n'a plus de sens, c'est encore, et malgré tout, à l'aune de ce clivage, parce que c'est celui qui est le plus profondément ancré dans notre débat politique, que ce bilan est estimé. Et puis, la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut déjà, évidemment qu'il est trop tôt, mais en évaluer la trace. On a, je trouve, un pape qui a été un pape très populaire. La question, c'est est-ce que ça va être un pape éphémère ? C'est-à-dire, est-ce que sa trace va être une trace profonde ? Et ça pose d'ailleurs la question plus large pour le pape, mais au-delà du pape, de savoir comment on laisse une trace dans l'histoire. Et je trouve que la voie qu'a choisie le pape François était beaucoup une voie de l'exemplarité, de l'édification par sa pratique. C'est-à-dire qu'il avançait plus des idées qu'il a vraiment touché le cœur de la doctrine. Il a imposé une pratique de simplicité, de proximité, davantage qu'il a fait évoluer en profondeur les institutions. Le risque, c'est que de troquer une résonance immédiate qui a été très forte en influence durable. Et je trouve que c'est ça le paradoxe, c'est que beaucoup, en réalité, va dépendre de la personnalité de son successeur pour voir s'il s'inscrira dans cette trace-là.
Très intéressante la notion de trace qu'on va évoquer avec notre invité qui va nous rejoindre dans un instant pour le débat. Mais je vous propose de partir à Rome où nous attend notre correspondant Bruno Duvic. Bonjour Bruno. Il y a un terme, bonjour Bruno, que les historiens détestent entendre et les journalistes employer, c'est historique. Mais quand on est sur place, Bruno, comme vous, est-ce qu'on a tout de même le sentiment d'assister à un événement historique ?
Alors, qu'est-ce qui plaide pour l'événement historique ? Ben d'abord, un événement, justement, dont on a eu connaissance il y a quelques minutes. Une photo de Donald Trump et Volodymyr Zelensky lors d'une brève rencontre dans la basilique Saint-Pierre. Rencontre totalement informelle. Les deux sont assis chacun sur un fauteuil, penchés l'un vers l'autre, en pleine discussion. Il y avait, lors de la cérémonie à laquelle on a assisté, 160 délégations, 50 chefs d'État. Ça a été un moment qui a réuni Lula, Macron, Milley, le prince William, Trump, Zelensky. Donc, il y a eu et il y aura probablement dans les minutes à venir d'autres rencontres entre leaders politiques. Je ne vous fais pas le dessin sur le contexte géopolitique actuel. C'est peut-être un petit bout d'histoire qui est en train de s'écrire en ce moment à Rome. Page d'histoire aussi, parce qu'il n'y avait pas eu de décès de pape en activité depuis 20 ans. C'était Jean-Paul II. 250 000 personnes ont assisté à la cérémonie aujourd'hui entre la place Saint-Pierre et la Via della Conciliazione qui y mène. Et c'était une cérémonie particulière. C'est un enterrement, des obsèques particulières. Le pape ne sera pas enterré à Saint-Pierre, mais à Sainte-Marie-Majeure, près de la gare de Rome. On va donc assister, on est en train d'assister au transfert de la dépouille en Mondovision de Saint-Pierre à Sainte-Marie sur une Jeep blanche ouverte, une papamobile utilisée lors d'un précédent voyage. Le convoi va passer près du Colisée, près du Forum et ses ruines antiques avant de se diriger vers la colline de l'Esquilin où se trouve Sainte-Marie. C'est pas la première fois qu'un pape est enterré ailleurs qu'à Saint-Pierre, mais le dernier c'était Léon XIII en 1903 à Saint-Jean-de-Latran. Il y avait moins de drones et de caméras. Et puis dernier point Thomas, se demander si c'est un moment d'histoire, eh bien ça revient à s'interroger sur la place de François dans l'histoire. On revient à la notion de trace qu'évoquait Gilles à l'instant. Et l'historien que vous êtes sait que ces choses se lisent après coup. Au moment où on se parle, c'est-à-dire le jour du décès de François, après 12 ans de pontificat, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas Jean-Paul II qui a joué vraiment un rôle actif dans l'histoire, au sens où il a joué un rôle dans la chute du communisme. On verra ce qui reste effectivement de François sur l'aspect diplomatique, par exemple. Ce que l'on peut dire, c'est que sur les deux grandes guerres du moment, le Vatican n'a eu aucune influence. Au début de son pontificat, il y a eu deux grands coups importants, un rôle joué dans le rapprochement entre États-Unis et Cuba, et puis la rencontre avec le patriarche Kirill, le patriarche de Moscou. C'était la première fois que le chef de l'Église catholique et le patriarche de Moscou se rencontraient, mais depuis, les relations se sont singulièrement refroidies au Vatican. On n'a plus de relations avec Kirill dans le contexte que vous connaissez.
Merci beaucoup Bruno, c'était très riche et ça va nous ouvrir une porte d'entrée magnifique pour discuter avec notre invité qui nous a rejoint. Place au débat.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Bonjour François Mabi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ce jour historique peut-être pour la papauté, les funérailles de François. Vous êtes chercheur au CNRS, vous dirigez l'Observatoire géopolitique des religions à l'IRIS et vous avez publié cette année, au début de l'année, aux éditions Erol, La papauté face à un monde en crise. Je ne me retiens pas à l'idée de vous faire commenter cette image extraordinaire du président américain Donald Trump assis en face, apparemment seul au monde, à l'intérieur de la basilique, face à Zelensky, tous les deux, tout seuls. Comment est-ce que vous regardez ça ? Est-ce que cette photo aurait pu avoir lieu à un autre moment, à un autre endroit ? qu'en ce moment.
Alors, dans le cadre d'un rassemblement à tonalité religieuse, non. Je pense que ça illustre tout à fait la singularité du catholicisme sur la scène internationale, à savoir, un, une religion véritablement mondiale, deux, une religion extrêmement centralisée, hiérarchisée, avec une seule figure de l'autorité, ce qu'on ne retrouve ni dans le judaïsme, ni dans le protestantisme, ni dans l'islam. Et enfin, une religion qui a aussi, pour une partie de ses activités, une dimension politique. Ça renvoie notamment au fait que le Saint-Siège a un ensemble de réseaux, enfin un ensemble de diplomates, les nonces, plus de 180 à travers le monde, ce qui veut dire que les chefs d'État sont en relation régulière avec le Saint-Siège. Et puis ça renvoie aussi à une singularité de ce pontificat, à savoir que le pape François s'est beaucoup impliqué sur la scène internationale, s'évolue beaucoup médiateur, à temps et à contre-temps, avec quelques succès, pas mal d'échecs, comme pour toute médiation. Et donc là, je pense que ce que l'on voit entre Zelensky et puis Trump illustre effectivement cette dimension géopolitique de ce pontificat.
D'autant que aucun des deux ne reconnaît dans le pape François leur leader spirituel, puisque Zelensky est juif et Donald Trump est protestant.
Tout à fait. Et puis, je pense qu'il y a un autre élément, c'est que le pape s'est fait opposant, protestataire sur de nombreux sujets. Oui. Alors, à l'égard de Trump, bien évidemment, c'est la question des migrants. Souvenez-vous que durant la première campagne de Trump, le pape François s'en prend directement à lui alors qu'il est candidat. Donc, une ingérence dans les affaires intérieures américaines durant une campagne électorale, en disant un homme qui veut créer des murs aux frontières, cet homme-là ne peut pas être chrétien, d'où bien évidemment ire de Trump qui estime que le pape n'a pas donné des brevets de christianisme à qui que ce soit. Et puis dans le cas de Zelensky, outre effectivement le fait que Zelensky n'est pas catholique, il y a un autre élément, c'est que ni Zelensky ni Poutine n'ont demandé au pape de se faire médiateur. Or, au regard du traité de Latran, le Saint-Siège, qui est un État neutre sur la scène internationale, ne peut se proposer comme médiateur que si les parties en présence le lui demandent. Autrement dit, le pape a outrepassé en quelque sorte ce que le droit international qu'il a lui-même contribué à créer lui reconnaît, d'où effectivement, outre ses prises de position extrêmement ambiguës sur le sujet, un désaccord pratiquement constant avec le gouvernement ukrainien.
Restons sur la dimension géopolitique avec vous, François Mabille. On a vu qui était là.
Oui.
Mais ce qui est intéressant aussi, qui n'est pas là?
Qui n'est pas là, effectivement. Alors, qui n'est pas là? Poutine, pour des raisons, je dirais, évidentes. Il a délégué, je crois, sa ministre de la Culture, ce qui est une façon à la fois de conserver un canal de discussion pour le futur, mais de montrer également qu'il relègue, en quelque sorte, le catholicisme au rang d'élément culturel. Netanyahou, bien évidemment, pour d'autres raisons. Là, en l'occurrence, vous avez deux aspects spécifiques. 2015, reconnaissance de la Palestine comme État par le Saint-Siège. Bien. Et puis les dernières prises de position du pape depuis le 7 octobre, rappelant à la fois les demandes du Saint-Siège sur la question israélo-palestinienne, deux États, un statut spécifique pour Jérusalem, et le fait que le pape a rappelé et dit, même si c'était mezzo voce, qu'il se pourrait que, suivant des enquêtes internationales, on estime qu'il y ait un génocide en cours sur la bande de Gaza, ce qui a soulevé bien évidemment la réprobation du gouvernement israélien, avec en fond de décor, si j'ose dire, tout de même, le souvenir historique de la Seconde Guerre mondiale, et bien évidemment, immédiatement, le rappel de l'attitude de Pie XII, même si les historiens ont pu revoir, mais n'ont pas excusé l'attitude de ce pape.
Et on oublie, c'est quand même incroyable, l'éléphant dans la pièce, la Chine.
Alors la Chine, bien sûr, troisième.
Non mais c'est fou, c'est quand même une des plus grandes, peut-être la deuxième plus grande puissance du monde, et on oublie systématiquement
la Chine. Et en sachant qu'il y a tout de même trois cardinaux chinois, voilà.
Alors la Chine, communauté catholique en Chine.
Et une communauté catholique en Chine. Et que
15 à 20 millions de, je crois, de fidèles.
Exactement, et que ça fait partie des évolutions que le pape a lancées, puisqu'il y a eu des tentatives de négociation avec le gouvernement chinois, tentatives qui se sont conclues par la signature de préaccords, voilà, renouvelés à trois reprises, ce qui montre bien qu'il y a encore un certain nombre de points qui restent en suspens, mais ça l'a créé aussi un certain nombre de polémiques à l'intérieur même de l'Église catholique et pas simplement en Chine.
Et pourquoi alors la Chine ne vient pas? Pourquoi
la Chine ne vient pas? Tout simplement parce que les accords n'en sont pas et qu'on est finalement dans une sorte de rapport de force entre le gouvernement chinois et le Vatican et de pari du pape à l'égard du gouvernement chinois. Le pape estime que, dans sa thématique qui est toujours celle du dialogue et de la rencontre, qu'il pouvait faire confiance au gouvernement chinois. On voit qu'on n'en est pas là.
Est-ce que je me trompe si le Vatican est un des rares derniers pays au monde à reconnaître Taïwan?
Oui, tout à fait. Ça fait partie également des désaccords entre les deux organisations.
Gilles, vous évoquiez, pour commencer, la singularité de l'Église en général et de ce pontificat. Dans les relations internationales, à quel moment et sous quelle forme le Vatican a-t-il joué un rôle? Et s'agissant de ce pontificat en particulier, est-ce que on peut avoir l'impression que d'une certaine manière, le pape François a joué les peuples contre les États? Est-ce que c'est une impression qui vous semble juste? Et quelle a été son influence?
François Mabille.
Alors, je dirais qu'il y a des inflexions fortes durant ce pontificat liées effectivement à la personnalité du pape. Avant d'arriver sur le plateau, j'écoutais Natacha Polony. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Vous rappeliez que l'enseignement social de l'Église depuis Rerum Novarum existe. Cet enseignement social, il est à la fois anticommuniste et antilibéral. Mmh. Voilà. Plus d'Union soviétique, le communisme n'est plus là, et on s'aperçoit que, eh bien, finalement, cette confrontation entre le catholicisme et le libéralisme perdure. Et notamment sous l'ordre social, sous l'ordre économique. Le catholicisme, la doctrine de l'enseignement catholique, est fondamentalement antilibéral, ou d'un libéralisme très tempéré, pour les raisons que vous évoquiez. Destination universelle des biens, volonté qu'il y ait une régulation du marché. Ces éléments-là ont été mis particulièrement en évidence par le pape François, notamment en raison de son origine argentine et du fait qu'il regarde le monde à partir de l'Argentine et que sa grille de lecture est une grille de lecture nord-sud. Chez Jean-Paul II, la grille de lecture, elle est traditionnelle et européenne, elle est est-ouest. Mmh. Et en plus, on est à l'époque de la guerre froide. Je suis un pape de l'autre côté du mur. Mmh. Et ce pape-là nous dit, je ne suis pas un pape de l'autre côté du mur, je suis un pape du bout du monde. Oui. Ce qui est différent, effectivement. Et donc, je pense que, du coup, c'est son point de vue, c'est le point de vue, effectivement, d'un homme du Sud sur l'Occident, qu'il perçoit comme un Occident, je reprends l'une de ses formules, un Occident colonisateur. Il a critiqué la colonisation idéologique de l'Occident, mais il l'a critiqué sous l'angle, je dirais, moral, sous l'angle économique et sous l'angle politique.
On est en pleine procession, le cercueil est en train de rouler vers la dernière demeure du pape, la basilique Sainte-Marie Majeure. Est-ce que ça entre dans ce que vous venez de dire, le pape des marges, le pape des périphéries plutôt que le centre, la plupart des papes étant enterrés au Vatican, lui a choisi d'aller sur la colline de l'Esquilin, dans un quartier pauvre, près de la gare de Termini. Est-ce que c'est aussi ça le choix d'un homme qui décide des marches plutôt que du centre?
Oui, c'est significatif, c'est symbolique. Alors je dirais que c'est de la très bonne communication également. Je ne veux pas dire que ça ne correspondait pas à une aspiration profonde, mais c'est un pape très politique. Lui-même disait que, alors je traduis l'italien, mais qu'au choix il était roué ou rusé. Voilà, ça veut dire beaucoup. Et donc là, effectivement, je pense que ça s'inscrit dans sa volonté de montrer qu'il n'est pas parmi les puissants, donc il ne veut pas résider dans les palais, fût-ce les palais du Vatican, donc je vais à côté à la maison Sainte-Marthe, et là je ne veux pas être de nouveau à Saint-Pierre, et je fais un pas de côté et je vais effectivement à Sainte-Marie Majeure. Là il y a une ligne de continuité, effectivement, une sorte de pédagogie. Autant ce pape a pu ne pas être pédagogue sur certains aspects, autant sur ces questions-là il a été sans doute plus adroit.
Lesquelles? Dans quel domaine il n'a pas été pédagogue?
Ah, il n'a pas été pédagogue sur de nombreux sujets.
Non mais dites-nous.
Prenons par exemple la réforme de l'Église. Vous évoquiez effectivement collégialité, synodalité. Quand vous commencez à dire à des cardinaux publiquement qu'ils souffrent de 15 maladies spirituelles, je dirais qu'il y a un petit peu du Claude Allègre. Hein. Je veux dégraisser le mammouth. Bon, on voit comment ça s'est fini avec Allègre. Et là, c'est un petit peu la même chose. Je veux dégraisser le mammouth, mais... je dirais que politiquement, pour engager une réforme, quand vous commencez à dire à des personnes, vous souffrez d'un Alzheimer spirituel, c'est son expression, vous risquez pas d'aller très loin avec eux. Voilà. Prenez la question des migrants, c'est un petit peu la même chose. C'est un thème très traditionnel sur ce sujet-là. Si vous regardez l'Église de France, 1954, première grande campagne sur mon frère l'étranger. Donc ça n'a rien de nouveau. En revanche, la façon de le dire, la façon de s'en prendre frontalement aux États européens, par exemple, en mettant tout de même le bémol sur les responsabilités initiales. D'où viennent les migrants? Pourquoi viennent-ils? Pourquoi partent-ils? Il faut attendre la fin du pontificat pour voir un rééquilibrage dans l'analyse du phénomène des migrations. Voilà. Et je dirais que dans l'ordre international, c'est un petit peu la même chose. Le pape s'est fait très moralisateur. C'est d'ailleurs pour ça une des contradictions. Je ne veux pas donner de faire la morale et donc je ne rappelle pas la doctrine et je suis plutôt dans une pastorale d'accompagnement. Donc je ne me fais pas finalement moralisateur comme ses prédécesseurs ont pu le faire. Mais en revanche, dans l'ordre international, je distribue les bons et les mauvais points en permanence, quitte peut-être à oublier que le Saint-Siège est dans une situation d'asymétrie. Ce n'est pas une force économique, ce n'est pas une force militaire. Et donc, lorsque vous ne choisissez pas vos partenaires, vous risquez à un moment ou un autre de pouvoir vous retrouver dans une situation d'affaiblissement.
Natacha.
Je prolonge sur cette question, et notamment sur le rapport de ce pape à l'Occident, parce qu'il me semble que c'est une dimension extrêmement intéressante. Vous disiez qu'il se situait dans un clivage plutôt nord-sud. On l'a vu par exemple quand il a prononcé un discours au Congo qui d'ailleurs a été très très peu commenté en France et en Europe, peut-être parce que justement il était extrêmement violent, notamment contre le soutien des Occidentaux et des Américains à Paul Kagame le rôle de Paul Kagame dans les massacres et les crimes de masse au Congo. Et justement, il attaquait très violemment l'Occident en général. Est-ce que vous diriez que c'est un pape de la désoccidentalisation du monde? Parce que sur la question, par exemple, oui, du conflit et de l'invasion de l'Ukraine, il a eu ces mots, par exemple, à un moment, il a dit « il y a des impérialismes qui se manifestent en Ukraine et pas seulement l'impérialisme russe ». C'est-à-dire qu'en fait, il attaquait l'impérialisme américain. Donc, est-ce qu'il a tenté, en fait, de déplacer le centre de gravité de l'Europe au risque de l'Église, au risque de ne pas être compris, et je pense que ça a été le cas, de la part d'Européens et d'Américains qui se conçoivent comme l'Occident et l'incarnation du bien.
François Mabi, le pape François est-il le pape de la désoccidentalisation du monde?
Alors, il la représente, effectivement, et en tout cas pour la désoccidentalisation du catholicisme, c'est indéniable. J'irai même plus loin, j'ai l'impression que sur certains sujets, il exprime une sorte de ressentiment à l'encontre de l'Occident. Alors, je ne sais pas si on peut encore parler d'Occident depuis un mois et demi avec le retour de Trump au pouvoir, mais en tout cas contre les États-Unis et les Européens, pour le dire autrement.
Ressentiment, vous diriez?
Oui, un ressentiment. Lorsqu'il s'en prend à la colonisation idéologique de l'Occident, à l'ONU, on est bien dans cette dimension-là. Et il l'évoque sous l'ordre moral, sous l'ordre économique et sous l'angle culturel.
Est-ce que le fait, par exemple, qu'il est snobé, pardonnez-moi le terme, oui, la réouverture de Notre-Dame, vous l'intégrez comme ça aussi dans votre réflexion?
Non, pour le coup, je le mettrais sous une autre problématique. Je pense que là, ce qu'il exprimait, c'était à la fois, même si il paraît qu'il a refusé qu'on utilise cette notion pour ses funérailles, il était le souverain pontife. Et dans souverain pontife, vous avez souverain. Souverain, c'est-à-dire je vais là où je veux, oui, et non pas là où on me dit d'aller. Et donc, que ce soit en France ou ailleurs, ces voyages ont une dimension pédagogique ce sont des illustrations des thèmes forts de son pontificat, qu'il ne s'est pas laissé imposer. Et donc là, je pense que pour Notre-Dame, effectivement, il y avait une volonté d'aller dans les lieux qu'il avait choisis et qui étaient représentatifs. Quand il va à Strasbourg, il ne va pas à Strasbourg, grande ville française, il va à Strasbourg qui, pour lui, symbolise l'Europe. Voilà. Et son discours est un discours adressé aux Européens avec une sorte de main tendue, de deal proposé entre l'Église catholique comme force sociale et l'Union européenne.
Voilà. Quand il va à Marseille ou en Corse, c'est aussi l'amour de la Méditerranée.
Oui, alors Marseille, ouais, c'est une ville méditerranéenne, symbole du carrefour des cinq rives méditerranéennes avec la thématique du dialogue interculturel.
Gilles.
Je voudrais savoir ce qui va se passer maintenant. Alors on commence à se projeter dans le conclave, on découvre ou on redécouvre ses usages et ses règles. D'abord, qu'est-ce qui se passe entre la mort du pape et l'ouverture du conclave, parce qu'en réalité, c'est le délai qui est prévu par les textes, mais à un moment où on mettait du temps pour venir jusqu'au Vatican, maintenant, tout le monde est là sur place pendant, je ne sais pas quand, si c'est le début mai, 5-6 mai, que va ouvrir le conclave. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 jours? Et qu'est-ce qui se passe pendant le conclave? Si tant est qu'on puisse le dire, la question c'est que je voudrais vous poser peut-être différemment, c'est selon quelle logique politique, géographique, géopolitique, religieuse, personnelle, se fait le choix d'un pape?
La géopolitique,
qu'est-ce qui se passe avant et qu'est-ce qui se passe pendant?
La géopolitique, c'est votre domaine. On a fait la géopolitique du Vatican dans le monde. Là, on rentre dans la géopolitique du Vatican.
Oui, dans la boîte noire.
Dans la boîte noire et secrète. Coupe clavée, sous clé en plus.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce conclave?
Première interrogation, et je reviendrai sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur l'héritage ou l'influence du pape. Quand l'après-François a-t-il commencé? Je ne suis pas sûr que ça ait commencé à lundi de Pâques. Je pense que ça a commencé un petit peu avant, lorsque le pape s'est rendu compte en novembre dernier, après le fameux synode sur la synodalité, qu'il n'avait plus la majorité sur la réforme de l'Église, puisqu'il n'a pas pu véritablement conclure par un document personnel ce moment de réflexion, qui a duré quand même plusieurs années, sur l'évolution, j'allais dire organisationnelle, de l'Église catholique. Voilà. Donc je pense que son départ était anticipé, que ce soit sous forme de renonciation ou en raison de sa maladie, d'un éventuel décès. Et donc que la réflexion sur son héritage a déjà été anticipée. Il restera sans doute l'encyclique Laudato Si, restera sans doute la rencontre avec le patriarche Kirill et la médiation entre Cuba et les États-Unis. Ce qui s'ouvre là, c'est, sous les caméras ou presque, la période des congrégations générales, c'est-à-dire d'une discussion sur ce pontificat, une sorte de retour d'expérience, d'évaluation. On passe au crible de l'évaluation, les points forts, les limites, le type de personnalité, au regard finalement de la réalité d'aujourd'hui, des enjeux pour l'Église catholique sur un certain nombre de sujets. Le pape a ouvert de nombreuses portes, il a donné un coup de pied dans la fourmilière, mais il n'a pas nécessairement conclu un certain nombre de dossiers. Et puis je dirais qu'il y a également, ce qui est peut-être un point inédit dans ce conclave, la dimension justement géopolitique qui intervient. C'est-à-dire que on voit bien que le monde est bouleversé par le retour de Trump, que les règles du jeu sont complètement bouleversées, elles ont d'ores et déjà des conséquences sur l'Église catholique. USAID, la grande agence américaine qui est mise sous les clés, qui est pratiquement arrêtée dans son travail, cette agence-là travaille avec des diocèses, des congrégations, des ONG catholiques. Donc vous voyez, les prêtres africains, les cardinaux africains en l'occurrence, peuvent être directement concernés par ces aspects-là.
Mais quand vous parlez de Trump, on ne peut s'empêcher de penser à J.D. Vance,
bien
son
sûr.
Vice-président, oui. Catholique, converti il y a 5 ans seulement, qui était avec le pape la veille de sa mort. Est-ce qu'il y a aussi, dans ce qu'on est en train de voir en ce moment, les funérailles non seulement d'un pape, d'un leader spirituel, d'un chef d'État, mais aussi peut-être d'un catholicisme?
C'est effectivement l'un des aspects qui se joue. On peut bien penser que J.D. Vance a en tête ce que Steve Bannon avait essayé pendant le premier mandat de Trump, à savoir essayer de mettre en place une sorte d'internationale conservatrice chrétienne, sous égide d'ailleurs des États-Unis. Vous évoquiez, Natasha Polony, tout à l'heure, les critiques du pape à l'encontre des impérialismes, donc impérialisme russe, mais également impérialisme américain. Ça faisait partie effectivement des oppositions directes. Impérialisme américain avec le mouvement nationaliste chrétien incluant une minorité catholique soutenant Trump, on a là un débat qui a traversé le pontificat de Pope François.
Je vous donne la parole, Natacha, mais juste, est-ce que vous pourriez définir en quelques mots ce qu'est le catholicisme de J.D. Vance?
C'est un catholicisme, je dirais très, je vais presque vous dire très protestant, c'est-à-dire un rapport directement à la Bible, l'idée que finalement, par sa conscience, on peut interpréter la Bible et qu'on se passe de médiation d'autorité, c'est peut-être d'ailleurs là son erreur, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte dans sa première prise de parole, lorsqu'il s'en est pris au pape, que l'Église catholique, c'est pas le protestantisme, et que là, on est en face d'une structure extrêmement hiérarchisée, et donc, lorsqu'il critique le pape sur les migrants ou lorsqu'il donne sa propre interprétation de Saint-Augustin, immédiatement il a quelqu'un qui s'appelle François qui lui rappelle qu'il y a un pape qui écrit immédiatement à l'épiscopat américain en leur disant « voilà ce qu'il faut penser ». Point à la ligne.
Je fais le sous-texte, hein. Saint-Augustin, c'est l'ordre à Maurice. L'idée qu'il faut davantage, il faut d'abord soutenir ses amis, ses voisins, plutôt que les étrangers.
Tout à fait.
Là où le Vatican dit non, il n'y a pas de hiérarchie à faire entre les êtres humains.
Exactement.
Natacha.
Alors, pour prolonger cela, justement, le pape, parmi les actions qu'il a mises en place dans sa réforme de l'Église, il y a quelque chose sur lequel il s'est inscrit en faux par rapport à son prédécesseur, qui œuvrait à réintégrer toute la frange la plus intégriste de l'Église catholique. Oui. Et au contraire, le pape François a rompu ça. C'est pour ça que certains aujourd'hui disent que c'était un pape de la discorde. Parce qu'en fait, il a mis à distance énormément certaines congrégations. Et il a même lancé des missions pour les inspecter. Est-ce que ça restera? Premier point. Et deuxième point, quand on voit les profils des papabilés, on est frappé par le fait qu'on a d'un côté... mais peut-être que je caricature un peu, des cardinaux de pays autres que l'Europe, c'est-à-dire des cardinaux africains notamment, ou autres, qui seraient un symbole, comme pouvait l'être François, d'une église non européano-centrée, mais qui sont extrêmement conservateurs, et au contraire, des papes européens qui, eux, sont plus progressistes, mais qui incarnent une Europe beaucoup plus classique. Donc, est-ce que ce qu'a tenté François peut perdurer dans la mesure où il était quand même un profil extrêmement original?
Est-ce que ça marche, ce clivage-là? Est-ce qu'il y a vraiment un clivage? Est-ce qu'il y a coïncidence entre ce clivage, disons, géopolitique et ce clivage
idéologique?
Idéologique.
Il y a des progressistes au nord et au sud et inversement.
Mais globalement, voilà.
François Mabille.
Écoutez, moi, je pense qu'il y a de nombreuses fractures et tensions qui ont parcouru, voire qui ont été créées par ce pontificat. Et donc, notamment, les fractures que vous avez créées. Donc, effectivement, entre Benoît XVI et François, vous avez une sorte d'effet miroir avec l'un qui réintègre effectivement, on va dire, les traditionalistes au prix d'ailleurs d'une polémique, et l'autre qui veut les mettre de côté au prix d'une autre polémique. Ce qui signifie quand même que ce qu'un pape fait, son successeur peut le défaire et le petit jeu peut continuer très longtemps. Ensuite, je dirais que plutôt que de progressiste conservateur, moi je pense que ce qui a parcouru ce pontificat, c'est une tension entre les doctrinaires et les pastoraux. Les doctrinaires rappelant, un peu à la façon de Benoît XVI, la doctrine en permanence, et plutôt une diplomatie ou une pastorale d'accompagnement de la part de François. Mais on voit bien que ça crée effectivement des tensions.
Le cercueil du pape François qui vient d'arriver d'ailleurs à la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome. François Mabille, est-ce que ça veut dire que comme en politique, après un pontificat ou un mandat, si on veut parler de politique, qui a fracturé, on arrive à des mandats d'apaisement? Est-ce que ça peut être ça, le prochain pontificat?
Oui, quand vous regardez les pontificats successifs au XXe siècle, et si vous prenez ne serait-ce que la seconde partie du XXe siècle, vous voyez bien qu'il y a toujours effectivement cette évaluation, et si ce n'est un mouvement de contrebalancier, en tout cas, voilà, on revient et on modifie un petit peu ce qui s'est passé. Pie XII, la fin du pontificat très dur, complètement rigidifié sur la doctrine. Arrive Jean XXIII, qu'est-ce qu'il fait? Il déstabilise l'ensemble en disant « je lance un concile ». Le concile, ça part dans tous les sens. Vous avez Paul VI qui arrive et qui modère un petit peu, qui finit le concile, qui ouvre certaines portes, notamment l'ostpolitique, c'est-à-dire l'ouverture vers les pays de l'Est, l'Union soviétique d'une certaine manière. Et puis, il a encore inquiétude. Et donc, Jean-Paul II, qui, lui, reprend cette diplomatie-là, mais la modifie. N'ayez pas peur. Et donc, combat frontal avec le communisme. Benoît XVI, continuité, et en même temps, là où le pape voyait Jean-Paul II voyageait beaucoup et publiait d'innombrables textes. Vous avez un recentrage sur ce qui semble être l'essentiel de la part de Benoît XVI. Arrive François, où vous avez de nouveau une réévaluation en disant « mais finalement l'Église s'est peut-être rétrécie et trop concentrée sur ses affaires intérieures ». Il y a des problèmes également d'organisation à la Curie. Quand il arrive, quelques mois avant, on a le Vatilix, avec tous les scandales que l'on connaît.
En un mot, quand même, dites-nous. Parce que
Vatilix, c'est se rendre compte qu'il y a des problèmes de transparence financière, donc des scandales financiers, oui, que finalement, que la Banque du Vatican pose un certain nombre de problèmes, qu'il y a les problèmes de gestion des crimes de pédophilie et autres. Voilà. Et donc, on nomme quelqu'un dont on estime qu'il va pouvoir à la fois reprendre en main la curie, mais qui, dans le discours qu'il a eu, effectivement, dans les congrégations générales, dit « je veux une église qui sort d'elle-même, qui sorte de son autocentrement et soit ouverte vers les périphéries ». Donc, vous voyez, à chaque fois, on a ce mouvement d'évaluation avec des sortes de rééquilibrage, avec une question tout de même qui se pose, qui est de réfléchir sur le poids des personnes, le poids des papes dans une organisation et de leur influence réelle.
Justement, dernière question sur le poids des personnes. On dit toujours que le favori ne gagne pas. Est-ce que ce sera encore le cas ?
Ça risque d'être le cas, bien sûr.
Merci beaucoup, François Mamie, de nous avoir éclairé pendant toute cette deuxième partie d'émission. Merci à Gilles, merci à Natacha, merci aussi à Bruno Duvic qui était avec nous depuis Rome. Merci à l'équipe du Grand Face à Face, Joachim Taïeb à la préparation de l'émission, Marie Merrier pour sa réalisation. Et aujourd'hui, Philippe Duclos et Adèle Caglard étaient à la technique d'émission, à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France.